RCF.
Chaque mois sur RCF, trois journalistes et Charles Leclerc vous donnent rendez-vous pour un débat, quatre critiques cinéma, sans coup. Voici les 400 coups.
Ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir trois confrères journalistes. Éric Van Cutsem, Éric, bonjour.
Bonjour Charles.
Thierry Van Weyenberg, Thierry, bonjour.
Bonjour.
Michael Degré, Michael, bonjour.
Bonjour.
Éric Van Cutsem, nous vous connaissons bien. Vous avez fondé le blog synopsis.be.
Oui, tout à fait.
Un des tout premiers, hein, je le rappelle.
Oui, 1997, oui.
Tandis que vous, Thierry, vous travaillez dans la presse traditionnelle, chez Moustique.
Oui, je travaille chez Moustique depuis une douzaine d'années maintenant.
Et vous, Michael, vous êtes parti de l'équipe des critiques de l'Avenir.
Oui, tout à fait. C'est une équipe que je dirige depuis une dizaine d'années.
Et vous publiez des critiques régulièrement et on prend plaisir à les lire.
C'est gentil, je vous remercie.
Nous avons trois films au programme de notre émission du mois de mars. Nous allons commencer par un film patient de Grand Corps Malade et Mehdi Idil. Vous allez commencer à nous en parler?
Oui, tout à fait, Charles. Donc, c'est un film qui est basé sur le roman éponyme de Fabien Marceau, parce que c'est le nom à la ville de Grand Corps Malade. Et c'est un roman qu'il a écrit, qui est un roman complètement autobiographique, qui parle de ce qu'il a subi, de son accident qu'il a eu étant jeune, qui l'a mis en tétraplégique incomplet, comme on appelle, donc c'est-à-dire un tétraplégique qui avait une chance de s'en sortir, on va dire, c'est ce qu'on entend par le mot incomplet en tout cas. Et voilà, donc il a adapté son propre livre à l'écran avec un de ses amis, Mehdi Idir, dont c'est le premier film aussi, comme Grand Corps Malade d'ailleurs. C'est un film, alors a priori on aurait tendance à dire ça parle des tétraplégiques, ça parle des gens effectivement qui sont vraiment dans un drame très 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 important. Eh bien, Grand Corps Malade, comme dans son livre, a réussi à faire... à complètement exclure le pathos et à faire un film qui est un film joyeux, un film émouvant, un film vraiment plein d'émotions, très drôle. On pourrait se dire, enfin, tétraplégique, drôle, est-ce que ça rime? Oui, ça rime visiblement, parce que ce qu'a voulu faire Grand Corps Malade, Fabien Marceau, dans ce film, c'est montrer qu'il y a un humour des tétraplégiques, un humour des paraplégiques, un humour de dérision, un humour qui leur permet évidemment de supporter leur condition qui est effrayante, évidemment. Et le film montre vraiment et met vraiment ça en avant, ce qui est très, très, très drôle, très souvent. Et en même temps, il ne cache pas l'état, évidemment, des différents protagonistes.
Thierry, vous avez vu ce film? Comment c'est-vous?
Oui, tout à fait. Je partage tout à fait l'avis d'Éric sur le film. Comme il le disait très bien, il y a pas mal d'humour, mais il n'est vécu pas pour autant le drame de ces gens qui sont finalement emprisonnés dans leur corps. Et ça va très loin, ils sont dépendants pour tout, pour aller aux toilettes, pour s'habiller, pour donc ils ne savent rien faire seuls. Et c'était sur un fil assez ténu finalement. Et il faut dire que Grand Corps Malade parvient à maintenir, je dirais... Moi, je ne suis pas aussi
enthousiaste,
enfin jusqu'au bout. Je suis enthousiaste pour le côté film, feel good movie du film. Donc c'est un film qui donne une pêche incroyable, qui ne s'adresse pas qu'au tétraplégique. Ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup la morale du film, c'est-à-dire que quand il y a un accident de la vie, chez eux c'est un accident un accident de sport ou accident de la route, etc. Ces gens se retrouvent sont souvent des gens assez jeunes qui se retrouvent dans cette incapacité de bouger. Ça pourrait s'adapter à des gens qui, pour une raison ou une autre, doivent choisir une autre destinée. Et donc, la morale, c'est choisir un nouvel espoir. J'aime beaucoup ça. Je dirais que le petit bémol pour moi, et c'est assez drôle parce que quelque part, il donne un peu le bâton pour se faire battre un petit peu, parce que son personnage parle de ce bémol finalement. Il dit « Ah oui, je sais, je suis quand même un peu trop dans la vanne tout le temps ». C'est le petit bémol. on a un peu l'impression d'être dans un sit-up, c'est pas un stand-up, mais un sit-up où les jeunes se font un peu des vannes. C'est le tout petit bémol, je trouve, mais sinon ce film est joyeux, plein de, voilà, très très beau.
Michael,
je partage alors l'enthousiasme et peut-être encore plus celui d'Eric. Disons que là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Thierry, c'est quand il, effectivement, c'est par rapport à ce petit bémol qu'il peut poser, dans le sens où je pense, mais alors là évidemment ça dépend du vécu de chacun, que tout qui a connu le monde hospitalier, son côté parfois un petit peu rude, connaît aussi cet humour, cette gaudriole qui est propre même au milieu et qui est assez incroyable. Et pour avoir été moi-même dans la situation, c'est vrai que on se découvre même un humour parfois, et ça on le ressent quand même très très bien à travers ce film. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Grand Corps Malade a beau être un slameur, un chanteur, peu importe comment on le définit, il fait un vrai film de cinéma. Et ça, c'est quand même la vraie surprise, je trouve, du film, c'est qu'il y a un vrai sens de la mise en scène, du rythme, à travers l'humour notamment. Et ça, véritablement, c'est extrêmement une bonne surprise. Et il ne faut pas oublier qu'il le fait avec Mehdi Idir, qui est quand même celui qui tourne la plupart de ses clips. Donc, il y a une vraie complicité, je pense, qui se dégage. Ils utilisent extrêmement bien les espaces offerts par l'infrastructure, qui est quand même le véritable centre de revalidation dans lequel Grand Corps Malade a effectué sa revalidation. Et donc ça, c'est vraiment la vraie surprise, effectivement, de l'humour, pas de pathos, et un vrai film de cinéma.
Et tourné avec de vrais malades, Eric.
Oui, aussi, il y a des acteurs et il y a de vrais malades, puisque ça tournait dans le centre, effectivement, où Grand Corps Malade de revalidation, où Grand Corps Malade s'est trouvé. Et ce que je voulais aussi rajouter, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, comme disait très bien Michael, ce qu'il a, c'est qu'il a un sens du détail. Il a un sens du détail et de l'observation qui est flagrant. Et ce qui donne au film quelque chose de vraiment attachant, c'est que chaque détail est soigné. Il n'y a pas de choses qu'il laisse tomber ou qu'il perd en cours de route dans son film. Le film est maîtrisé de bout en bout au niveau écriture, mais il est maîtrisé de bout en bout au niveau mise en scène. Donc il y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Et c'est assez remarquable parce que ça reste quand même, bon, d'abord un slameur. On ne le connaît pas vraiment comme étant un réalisateur. Mais il a ce sens-là, en tout cas. Je pense que, bon, Mehdi Idir a bien aidé probablement, mais disons que c'est assez étonnant. Et ce sens aigu de l'observation, c'est quelque chose de très important pour un film de ce type-là, évidemment, où chaque composante a son importance, quoi.
Thierry ?
Oui, non, mais je partage quand même le contentement de mes collègues, ça y a pas de souci. C'était juste moi que je trouvais un moment que ça tourne un tout petit peu en rond sur le final. Je trouve que le début est très prenant avec la caméra subjective et toute cette progression finalement très lente, parce que Patient porte très bien son titre, hein, donc il reste au moins un an dans ce centre. Et je trouvais que ça tournait un tout petit peu en rond, mais sinon c'est tout à fait juste. La maîtrise pour un premier film est assez étonnante. Tout se tient. J'aime beaucoup sa découverte du fauteuil roulant électrique. C'est très très bien utilisé.
Donc oui. Une des choses qui m'avait marqué, c'est on parle de lui comme il. Et à un moment donné, il se rebelle plusieurs fois quand l'infirmier arrive. Il parle de lui à la troisième personne et il se sent mal à l'aise et il rouspète et il semble pas s'être écouté.
Et ça, c'est lié, je pense, aussi au caractère un peu tempétueux de son aide-soignant, Jean-Marie, oui. qui effectivement est très haut en couleur et apparemment encore un cran en dessous de la réalité, expliquait Grand Corps Malade il y a peu. Et donc, je pense que c'est réellement lié à ça. Et c'est vrai que pour le reste, oui, tout ça est très maîtrisé. Il y a des très bons acteurs. Yannick Régnier, qui est formidable en kiné, qui est trop, trop peu souvent à l'écran, d'ailleurs, je trouve. Et peut-être une amourette un petit peu dispensable, mais en même temps qui finalement n'est pas non plus, ne prend pas trop de proportions et ne vient pas polluer l'essentiel dans le film.
Vous voulez réagir, Thierry ?
Oui, ce qui est assez audacieux, parce que Michael parlait des acteurs, il n'y a pas une caution quelque part. Yannick Régnier n'est pas si connu que ça, et on a en chef médecin, on a Dominique Blanc, qui est une grande actrice, surtout de théâtre, qu'on ne voit plus assez au cinéma, mais... Donc vraiment, on n'a pas de tout grands acteurs pour attirer, j'allais dire le chaland, plus ou moins, si ce n'est Grand Corps Malade, quoi. Mais voilà, donc ça, c'était aussi audacieux de pouvoir sortir un film comme ça.
Eric, celui qui joue le rôle de Grand Corps Malade.
Oui, qui est Pablo Poli, oui, qui est très, très, effectivement, très bien, tout à fait, oui, c'est vraiment, on a l'impression qu'il est lui-même, je veux dire, atteint de tétraplégie, c'est assez, bon, c'est, mais ils sont tous très, très bons dans leur rôle, c'est vrai que pour des acteurs qu'on connaît moins bien, des acteurs qui sont moins mis en évidence d'habitude, ils sont très, très bons. Maintenant, est-ce qu'ils sont aussi, je pense, bien dirigés? Il y a beaucoup de choses qui jouent, évidemment, dans un film. Non seulement la qualité de l'acteur, mais la qualité de la direction d'acteur qu'il y a. Et je pense que, de ce côté-là, de nouveau, Grand Corps Malade, avec un côté détailliste, ça l'intéresse probablement de bien maîtriser de bout en bout, de maîtriser aussi cette direction d'acteur, quoi. Donc, on a quelque chose de bien. Moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est... Au-delà du... Bon, on peut critiquer, on peut dire beaucoup de choses sur le film, beaucoup de choses positives et tout. Ce que je voudrais insister, c'est auprès du public, c'est de dire « Allez-y, parce que c'est pas un film qui va vous flanquer le bourdon. C'est pas un film où vous allez ressortir en disant « Oh mon Dieu, encore un film sur des gens qui vont mal, etc. » Non, au contraire, c'est un film qui va vous mettre la pêche parce que c'est un film qui dit, voilà, d'abord, on peut s'en sortir. Attention, il dit « On peut s'en sortir », mais il montre aussi qu'on ne s'en sort pas. Il y a de ses collègues, on va dire en tout cas les personnes qui ont une maladie et qui sont tétraplégiques, eux, complets, bah, ils ne s'en sortent pas. Et il n'exclut pas ça, mais il arrive à le tourner de manière à dire « oui, mais il y a quand même une possibilité ». Et ça c'est fondamental et il faut aller le voir rien que pour ça, je pense.
Vous partagez ce point de vue, Michael ?
Oui, totalement. Et puis j'aurais envie d'ajouter, non seulement ce n'est pas un film triste, un film qui donne la pêche, mais aussi ce n'est pas un film musical, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser Grand Corps Malade égale musique, égale slam au moins, mais non, pas du tout. Le slam n'intervient absolument pas une minute dans le film. Il n'intervient que tout en fin de générique après le film. Et donc là aussi, ça, c'est un bémol qu'il faut écarter d'avance. Ça n'existe pas. C'est un vrai film de cinéma, comme on l'a dit tout à l'heure, oui.
J'ai souvenir d'un plan dans la salle de repas, notamment en Travelling, où on voit une évolution dans le temps du film aussi. Il y a une sorte de séquençage d'images qui se situent à des époques différentes dans le réfectoire.
Oui, qui est probablement lié aussi au passé et au présent, d'ailleurs, de réalisateur de clips de Mehdi Idir. On sent qu'il y a une vraie touche personnelle et une vraie expérience dans la maîtrise de l'image dans son chef, oui.
Oui, il y a une maîtrise du temps, effectivement, hein, très fort, parce qu'il y a des accélérations, il y a des jeux avec le temps. Parce qu'évidemment, un an résumé en près de 2 heures, forcément, il faut, c'est évidemment, on le sent doute, impossible. Donc, il faut maîtriser bien la temporalité du film, mais de nouveau, c'est très bien maîtrisé, quoi.
Et nous allons maîtriser la temporalité de l'émission, puisque vient le moment de votre choix musical. C'est vous qui avez choisi... un extrait de la bande originale du film.
Mais oui, justement, comme disait très bien Michael, c'est pas un film musical, et il n'y a pas de moment de Grand Corps Malade et qui pousse la chansonnette, excepté dans le final et dans le générique final. Voilà, donc c'est cette chanson-là qui est présentée maintenant. Oui, c'est Espoir Adapté. Oui.
Nous allons écouter cela.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Qui résiste, même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces 5 potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes, c'est retrouver le bout de la sueur entre 2 barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
trying to let it go, been trying to free my soul, but all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows, my bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bound. I hold on to this second chance, I'll breathe.
Trouver un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
Le deuxième film dont il sera question cet après-midi, c'est Chez nous. Michael, vous allez nous en parler ?
Oui, bien sûr, évidemment. C'est le nouveau film de Lucas Bellevaux, à qui on doit notamment 38 témoins. Disons qu'il évoque la trajectoire d'une infirmière du nord de la France, Pauline, qui est très attachée à ses patients et qui... est témoin finalement en tant qu'infirmière à domicile de la misère du monde qui l'entoure, une misère sociale, une misère affective, et elle va être approchée progressivement par des gens qui appartiennent à un parti d'extrême droite qui ne veut plus dire son nom, ça fait penser à d'autres, et qui veulent qu'elle se présente aux prochaines élections municipales. D'abord réticente, elle va peu à peu être gagnée par l'idée parce qu'elle a l'impression de pouvoir faire bouger les choses et peut-être se fourvoyer quelque peu. Voilà.
Éric ?
Oui, c'est un film intéressant. C'est un film évidemment très très politique, on s'en doute. Maintenant, il y a eu, je pense, quand on est sorti de la vision, si je me rappelle bien, il y a eu quelques débats parce que c'est un film qui est complexe. C'est un film qui ne prend pas réellement parti ni pour l'un ni pour l'autre. On sent qu'évidemment il attaque clairement l'extrême droite, hein, ça c'est vrai, mais en même temps il veut pas montrer vraiment l'extrême droite. Ce qu'il veut montrer, c'est quelles sont les manipulations que l'extrême droite peut faire. C'est la façon dont on peut amener quelqu'un qui est hors politique, l'amener dans la politique et l'amener en la mettant en avant, alors que finalement elle n'a pas envie d'être vraiment en avant. Donc c'est ce jeu plus complexe, je ne suis pas sûr que Bellevaux l'ait réussi complètement, on va dire, dans son film, en fait. C'est ça mon seul bémol par rapport à ce film. Sinon, j'ai assez bien aimé le film, en soi.
Je vous vois être dubitatif, Thierry.
Oui, moi, je suis très dubitatif, parce que je crois que l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'aime beaucoup Lucas Bellevaux, et je pense qu'il rate complètement son film. Donc, Éric parle de monde complexe. Moi, j'ai trouvé, au contraire, que c'était extrêmement caricatural. Donc, on sait que Bellevaux, la plupart de ses films se basent sur les luttes de classe sociale à travers quelque histoire que ce soit, hein, que ce soit une histoire d'amour comme Pas son genre, etc., qui était pour celui-là extrêmement bien réussi. Ici, je trouve que rien ne tient. Aucun personnage n'est véritablement crédible, hors le docteur joué par Dussolier, qui est toujours magnifique, qui joue cette espèce de serpent charmeur qui essaye d'introduire Pauline dans son bloc. Je crois que ça s'appelle le bloc, je ne sais plus le nom du parti.
Donc, c'est le bloc.
On sait qu'il vise. Je crois qu'il a été finalement emprisonné par sa volonté de dire attention, ces gens sont dangereux. Je ne dis pas que tout est raté, hein, parce que ce serait exagéré. On voit un peu comment le venin rentre petit à petit chez les gens du village. Mais ce côté diamétralement opposé, col blanc et pauvre Jean visité par par Emily de Ken dans le rôle de Pauline me semble extrêmement caricatural. En fait, c'est la première fois qu'il me déçoit.
Et c'est étonnant parce que pas son genre avait déçu certains critiques, me semble-t-il.
Ah, c'est possible. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Des réactions par rapport au regard un peu partagé, à tout le moins, ou de déception de Thierry ?
Moi, je suis assez d'accord avec Thierry, peut-être pas aussi dur, mais quand même, je trouve quand même que globalement, le film caricatural, je trouve que c'est le bon mot, peut-être naïf aussi, ça peut être un mot qui colle davantage à Pauline, l'héroïne. Mais effectivement, je trouve ça assez caricatural, parce que c'est vrai que les bonnes intentions ne font pas tout, et l'explication des mécanismes qui conduisent finalement dans les bras de l'extrême droite me semble un petit peu exploitée de façon superficielle. On ne rentre pas vraiment dans le détail, Pauline bascule très vite, je trouve, sans qu'on comprenne vraiment exactement pourquoi, ou alors de façon très, très schématique. Et donc, vraiment, je trouve que la mayonnaise ne prend pas à ce niveau-là.
Ça manque de crédibilité ?
En tout cas, ça ne manque pas de recherche. On sent bien que le sujet a été travaillé. Mais il est évidemment éminemment complexe à résumer en une heure et demie, en l'occurrence ici 2 heures. Il est un peu plus long. Mais non, vraiment naïf et caricatural, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux et d'éviter par exemple le côté des calcomanies, je trouve, lié à la ressemblance, même plus physique. Que ça, avec le Front National. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'un parti qui veut faire oublier qu'il était avant un parti d'extrême droite, mené par une fille qui est la fille d'un ancien leader charismatique d'extrême droite très dur.
On a compris.
Blonde, on a compris dans quelle pièce on jouait. Et ça se passe dans le nord de la France. On n'est pas loin des Nimbomont. Là, c'est une autre ville, mais globalement, c'est exactement le même cadre, les mêmes mécanismes. Et finalement, c'est un petit peu dommage, d'ailleurs, de ne pas choisir de raconter ça autrement, dans un autre endroit, peut-être plus au sud, là où il y a du soleil et où l'extrême droite en France notamment gagne aussi beaucoup d'électeurs et pas forcément toujours sur le dos de la misère sociale.
Vous voulez réagir, Thierry ?
Oui, c'est peut-être pas une question d'endroit. Je pense qu'il a tout voulu mettre dans son film. C'est ça le problème. Il veut aussi plaquer une espèce d'histoire d'amour qui n'a aucun intérêt pour pouvoir introduire notamment, évidemment, les mouvements nazis qui entourent ces cols blancs qui essayent de se donner une belle image sous leurs propos racistes. Donc, il a voulu tout faire et finalement, rien ne marche au fond.
Éric, cette histoire d'amour, on peut en parler peut-être, parce que sinon on ne comprendra pas de quoi il s'agit.
Oui, il y a une histoire d'amour entre Pauline et un gros bras du mouvement, un gros bras qui est en repentir. Il est entre les deux, enfin on va dire en repentir que, puisqu'il il continue, je veux dire, à faire des ratonnades.
On ne voit pas, elles sont hors champ.
Oui, tout à fait. Mais bon, disons qu'effectivement, c'est une histoire d'amour. Et là, autant je suis moins d'accord avec le côté caricatural, j'y reviendrai. Autant l'histoire d'amour, effectivement, je trouve que bon, elle est là vraiment pour justifier une certaine façon de se retourner à la fin et pour préparer plus la fin que de préparer d'ajouter quelque chose à l'histoire. Maintenant, par rapport au côté caricatural, là, j'aimerais ajouter une chose. Le Front National et les partis d'extrême droite sont caricaturaux par essence. C'est-à-dire, je veux dire, c'est très, très difficile d'en parler sans parler caricature. Je veux dire, quand on voit Jean-Marie Le Pen, franchement, c'est une caricature en soi. Quand on voit toute une série de gens de l'extrême droite, ce sont des caricatures en soi. Donc, je pense que... Je ne dis pas qu'il n'est pas tombé dans la caricature, mais je pense que c'était tellement facile d'y être parce que ce sont des gens comme ça. Et c'est vrai que quand on voit ce que Jacob fait, notamment du personnage qui n'est évidemment pas identifié comme le personnage de Marine Le Pen, mais enfin, on sait bien qu'elle représente ça, elle s'est même teinte en blonde pour ça. Je dirais évidemment, on sent que la caricature n'est pas loin, mais ce sont des personnages qui sont vraiment caricaturaux. Donc je suis plus nuancé par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le fait de Bellevaux. Je pense que c'est le fait de son sujet qui implique ce genre de choses.
Oui, mais voilà. Il lui donne un papa communiste qui vaut... je veux dire...
Une autre caricature pour vous ?
Comment ?
C'est une autre caricature
quelque
pour
part,
vous ?
Quelque part, oui. Et on se demande même pourquoi il le fait, parce que finalement, il ne tire rien de ça non plus, en fait. Il y a presque pas de rapport entre le père et la fille. Tout d'un coup, il ne se voit plus. Mais tout ça est amené, comme disait Michael tout à l'heure, elle se détourne de son père comme elle se détourne de un peu beaucoup trop vite, je veux dire. Et c'est là que je trouve le film pas fin du tout. C'est bon, voilà, maintenant elle va se maquiller en blonde, elle accepte un peu.
Elle est forcée et contrainte, je trouve.
Forcée et contrainte, oui. Pourquoi ?
Mais on la pousse sans qu'elle puisse raisonner la question.
Non, ça aurait pu, mais malheureusement, et c'est à peine abordé, mais l'histoire avec le docteur qui a aidé finalement le gros bras en question, justement, et la famille aussi de Pauline, c'est à peine abordé, ça aurait pu être plus fin que ça, en fait.
Oui. Oui, c'est vrai que sur le père communiste, je suis assez d'accord. En interview, Lucas Bellevaux disait que les gens ont oublié que la démocratie et les acquis sociaux se sont faits en luttant, a-t-il dit. Et justement, cette partie-là, ça, c'est intéressant aussi à creuser, et il ne le creuse pas du tout. Et je trouve que là, il a raté une partie de son sujet, peut-être au profit de cette histoire d'amour qui, effectivement, n'a ni queue ni tête. Pour le reste, par rapport à ce que disait Eric, je suis assez d'accord. C'est vrai que le Front National, comme les partis d'extrême droite, sont déjà des caricatures en soi. Mais je trouve que l'analyse qui est faite, c'est l'analyse de mécanismes qui sont aussi à l'œuvre, et c'est intéressant, mais qui sont aussi à l'œuvre dans d'autres partis traditionnels. Quand on entend je ne sais plus quel chef de parti dire « mais le programme, on s'en fout », je veux dire, quelque part, il suffit de suivre les élections à l'œuvre aujourd'hui en France pour se rendre compte qu'effectivement, le programme, on s'en fout. Les sondages, pour l'instant, ne s'occupent pas du tout du programme. Les débats, pour l'instant, ne les abordent absolument pas. Et donc, finalement, c'est pas uniquement propre au Front National pour, quelque part, me faire l'avocat du diable. Ça, je pensais pas
surtout
faire ça un jour.
Surtout que Thierry a employé l'image du serpent pour parler du docteur.
Et je trouve que la vraie caricature, personnellement, je trouve que c'est celle qui voudrait que on peut manipuler si facilement le peuple, et qu'il faut forcément être dans une misère sociale pour voter Front National. Je pense que ça, c'est extrêmement caricatural, et que c'est peut-être ce qui a conduit aujourd'hui d'ailleurs à un parti comme le parti de Marine Le Pen à faire autant de pourcentages, disons, dans les sondages et dans les prévisions, pour la présidentielle qui s'annonce, quoi.
Vous n'avez pas l'impression quand même que de la part de Pauline, il y a un terrain propre, elle est séduite, mais elle se laisse séduire aussi. Non ?
Mais moi, je crois qu'elle est tout simplement naïve, c'est tout, comme beaucoup, finalement, quand on réfléchit. Je dirais que c'est le personnage le moins étonnant de l'ensemble, parce que, effectivement, quand on est dans l'action, et ce qu'elle est, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va auprès des malades, etc. Je pense que c'est très facile de manipuler une personne comme ça. Elle est vraiment proche des malades, et elle ne s'occupe pas vraiment de la vie politique, et on lui amène, en plus c'est son mentor au départ, c'est un médecin qui lui amène cette chose-là, qui est vraiment son mentor, quelqu'un qu'elle respecte, donc je pense que c'est beaucoup plus facile à amener un personnage un peu naïf, c'est ce qu'elle est, on le voit par rapport à son amourette d'ailleurs, elle est vraiment naïve à bien des points, peut-être là un peu trop sur l'amourette, mais en tout cas, je veux dire, c'est un personnage qui est crédible et qu'on peut amener à faire des bêtises de ce type-là, c'est vrai, ça c'est malheureux.
Nous allons interrompre, faire silence par rapport à ce débat. C'est un mauvais jeu de mots parce que vous avez un choix musical, Thierry, que vous nous proposez, et vous allez vous le faire un clin d'œil avec le film qui suivra.
Oui, voilà, c'était juste pour faire un clin d'œil à Silence de Scorsese. J'avais choisi Enjoy the Silence de Depeche Mode. Voilà, c'est un simple clin d'œil.
Un peu plus de 4 minutes de Depeche Mode.
feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable, or ever wanted, or ever needed. It's here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Silence, c'était un jeu de mots volontaire de la part de Thierry pour faire un lien qui n'en est pas un avec le film qui porte le même nom, Silence ou Silence, de Martin Scorsese. C'est une adaptation d'un roman japonais qui raconte une histoire vraie qui se situe au XVIIe siècle, celle de deux moines portugais, mais dans la réalité historique ils sont italiens, deux moines portugais qui vont se rendre au Japon. Pourquoi s'y rendent-ils? Parce que leur maître, dit-on, aurait apostasié et ils veulent vérifier la chose parce qu'ils n'arrivent pas à le croire. Voilà le point de départ du film. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer? Je crois que l'assentiment n'est pas vraiment favorable au film. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est surtout à vous, mes confrères, que je cède la parole. Thierry.
Thierry, c'est moi.
Pardon.
Je crois qu'on va, pas être d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, Charles. C'est un film, alors ça c'est, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a que Scorsese qui plus ou moins qui est capable de faire ça, un grand écart passant du Loup de Wall Street, tout à fait hystérique, sous en fait, limite slapstick à la Tex Avery, à Silence, avec des cadres posés, dans des cadres majestueux du Japon. C'est une histoire qui commence un peu, elle a plusieurs histoires, en fait, et on peut plonger de différentes manières dedans, parce que d'un certain côté, elle fait penser à Mission. On a deux personnages qui sont effectivement, qui doivent aller retrouver quelque part dans un village perdu, ce prêtre plus ou moins disparu, en tout cas apostasié, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. On pourrait même penser au départ presque d'Apocalypse Now, parce que il y a de l'étrangeté dans ce film. Hein. Dès le départ, on a des cadres nimbés de brouillard comme ça, un peu comme Kurosawa. C'est assez étrange. Et puis on arrive finalement dans ces villages où on apprend quelque chose finalement, parce que c'est une réalité historique qui est peu connue, le fait que effectivement les bouddhistes n'étaient pas nécessairement toujours des gens très tendres, c'est le moins qu'on puisse dire, et que nos amis de Daesh n'ont rien appris en termes de violence et de torture abominable, parce que c'est quelques villageois, enfin il y a quand même, je crois qu'il y avait, mais ça tu sais mieux que moi Charles, il y avait à peu près 300 000 croyants, 300 000 chrétiens je crois dans le Japon du 17e siècle,
catholiques mais que l'on avait convertis de force, il ne faut pas oublier ça.
Ah oui, ce sont aussi des convertis de force oui. Et ces gens sont contraints à vivre dans des villages même pas à la lueur du jour, cachés, parce qu'il y a l'inquisition bouddhiste qui les recherche,
en tout cas japonaise, qui interdit le culte, le culte catholique. Une réaction, Eric?
Mais c'est difficile, malheureusement, parce que j'ai été très déçu du film.
Vous avez le droit d'être déçu, on peut ne pas être consensuel.
Non, mais je voulais dire, c'est difficile parce que, comme beaucoup de cinéphiles, comme beaucoup d'amoureux du cinéma, j'adore Martin Scorsese. Je trouve que c'est quelqu'un qui a d'abord une grande culture du cinéma, mais qui en plus fait des films absolument exceptionnels, maîtrise une mise en scène de bout en bout. Donc c'est quelqu'un qui a toute mon admiration. Ici, sa mise en scène, elle est bonne, elle est efficace, comme disait très bien Thierry, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai un gros problème avec l'histoire que je trouve assez simpliste, finalement. C'est, alors qu'il y a une longueur assez importante du film, je trouve que on effleure tout le temps les choses. Donc, il y a jamais un approfondissement, parce que il y a un appesantissement sur certaines scènes, sur certains décors, qui fait qu'on ne se pose pas sur d'autres réflexions qui pourraient être intéressantes. Et je trouve que c'est assez symptomatique. J'aime bien ce qu'a dit Thierry, parce que d'une certaine manière, il y a vu plus que ce que le film propose. Il a été plus loin, il a déchiffré ce que le film proposait, et il a proposé son interprétation au-delà de ça. Mais je trouve que, on recherche ce prêtre, hein, leur fameux prêtre qu'ils veulent retrouver, et on n'est pas vraiment convaincu. Je suis pas vraiment convaincu par ce prêtre qui a renoncé. Je suis pas vraiment convaincu par la façon dont c'est amené, dont la recherche est amenée. Donc, il y a rien qui arrive au niveau histoire à me convaincre que le film est intéressant. Donc voilà, je suis par rapport à ça, je suis désolé, mais non pas par rapport au fait que je suis désolé de ne pas aimer. Je suis désolé parce que c'est Scorsese et que j'aurais bien voulu trouver quelque chose d'un peu plus concis, un peu plus fermé dans ce qu'il voulait faire, quoi.
Michael.
Oui, je partage assez l'avis d'Eric, peut-être pour des raisons différentes. Au niveau du fond, j'ai peut-être trouvé davantage de choses ou voulu trouver davantage de choses. Disons que je trouve que c'est un film qui, sans être un brûlot, dit quand même des choses très intéressantes sur la foi et qui, quelque part, nous amène à penser sur la fin que c'est une affaire personnelle. Et Dieu sait si, par les temps qui courent, c'est important de le dire. Mais par contre, je trouve que c'est beaucoup trop lent, beaucoup trop long, et probablement en partie, enfin, je dirais pour deux choses. La première, c'est que Scorsese, ça fait 20 ans qu'il voulait adapter ce bouquin, on sent qu'il aime son sujet, on sent qu'il l'a mûri, réfléchi, peut-être même trop, et donc peut-être il n'ose pas aller suffisamment loin dans la transgression, comme il a pu le faire par le passé dans d'autres films. Et donc, ça rend son film extrêmement, extrêmement lourd, et même si c'est aussi ce qu'il recherchait. Après, il y a aussi le problème, je trouve, et c'était un problème qu'on trouvait chez lui, d'ailleurs, déjà dans Kundun, c'est ce côté avec de grands symboles vraiment très, très lourds qui peut mettre en place et qui prennent une place, d'ailleurs, déraisonnable, je trouve, dans le film. Des envolées mystiques, voilà, plusieurs fois, on comprend très vite, il fait des parallèles entre son personnage et le Christ. Je veux dire,
il y a une image du personnage d'un des moines qui se reflète dans l'eau,
voilà, qui est
très christique.
Il y a cette voix qui intervient à la fin. Tout ça, je trouve, alourdit beaucoup le propos, là où peut-être, en l'occurrence, le silence se serait imposé peut-être plus facilement. Mais je trouve que tout ça alourdit vraiment et allonge inutilement le film, qui se tire en longueur, qui est magnifique, d'une beauté fantastique. Il est retourné à la pellicule et c'est prodigieux à ce niveau-là. Et j'adore effectivement, moi aussi, Martin Scorsese. Mais par contre, je trouve que l'ennui est lui aussi au rendez-vous, malheureusement.
Le silence, il faut préciser que c'est le silence de Dieu. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» revient dans le film. Et donc, c'est Dieu ne répond pas. Ce à quoi le croyant dira, c'est la liberté du croyant que Dieu ne se donne pas à connaître de force. Pour les incroyants, en disant, mais vous voyez, il n'y a rien. Et il y a cette question-là du silence de Dieu. Vous voulez réagir, Thierry ?
Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je ne me suis pas du tout ennuyé parce que, en fait, je trouve que le personnage joué par Garfield, notamment, parce qu'on on s'occupe plus de lui que de Driver, est un personnage éminemment scorsésien. Effectivement, on peut trouver que le fait qu'il se mire dans l'eau et qu'il voit le Christ, mais au fond, tous ces personnages sont le Christ. Je veux dire, Travis Bickle, c'est le Christ aussi. Je perds mes mots, excusez-moi. Je ne me suis pas embêté aussi parce qu'il y a de l'humour à travers ces espèces de vagabonds rusés. Et il y a plein, de recherches sur la foi qui m'ont assez étonné, moi, par contre, au contraire. C'est-à-dire que Kojishiro, je crois qu'il s'appelle ce vagabond...
Celui qui
est aussi
qui
une
trahit,
référence...
qui demande le pardon à chaque fois.
Qui est aussi une référence à Kurosawa, au vagabond rusé qu'on retrouve chez Kurosawa. Et c'est ça que j'aime bien aussi, parce qu'on retrouve des références filmiques très intéressantes. Eh bien, c'est aussi quelque part ce sont deux doubles de Scorsese. Donc, il y a un double-double en fait. Il y a le personnage joué par Garfield qui est un double de Scorsese, quelqu'un qui est à l'épreuve de sa foi pendant tout le film. Il donne la chance à ses personnages, contrairement à Luca Bellevaux justement, d'exister et d'évoluer en fait, parce qu'il est lâche au départ. Hein. Garfield est lâche. Il est étonné de cette croyance de ses villageois. Il les laisse quelque part aller vers la mort à sa place. Hein. C'est quelque chose d'assez fort quelque part.
Il faut peut-être préciser quand même quelque chose, c'est que il y a la question aussi du martyr. Donc
oui.
les croyants japonais qui ont été convertis de force donnent leur vie parce que ça renforce leur foi. Quand on martyrise les prêtres ou qu'on les met à mort, ça renforce leur foi. Et donc, ce que les Japonais vont faire, c'est plutôt que de torturer les prêtres, c'est torturer leurs fidèles et les mettre à mort jusqu'à ce qu'ils abjurent leur foi. Et là, il y a quelque chose d'assez...
Je connaissais un peu moins.
Donc, c'est ça qui est dans le film. Hein. Donc, tant que le prêtre n'abjure pas sa foi, on va mettre à mort des témoins. Et à un moment donné, ça devient vraiment une question cruciale. C'est plus moi qui suis martyr. Si je n'abandonne pas ma foi, je laisse mourir de manière atroce des gens que je suis censé aimer.
Quel est le sacrifice le plus difficile, le plus lourd, finalement, à accepter, à tolérer? Oui, c'est ça, la question.
C'est vraiment une question fondamentale. Et de se dire, à un moment donné, si j'en laisse mourir 2, 3, 4, 5, pourquoi j'ai pas abandonné au premier si j'abandonne au cinquième? C'est une question vraiment cruciale qui a été celle de ces martyrs japonais chrétiens catholiques.
Oui.
Mais moi, pour relancer un peu ce qu'a dit Michael, je trouve que la comparaison avec Kundun est assez bonne. Effectivement, il s'est un peu perdu Scorsese pour moi là-dedans. Et une vérité aussi, c'est qu'il a mis, comme disait Michael aussi également, c'est il a mis énormément de temps pour arriver à aboutir à ce film. Et je pense qu'il l'a tellement porté sur lui que, d'une certaine manière, voilà, il est peut-être tellement habité par ça qu'il ne se rend pas forcément compte de ce qu'il fait au niveau de la lourdeur de son propos. Et je pense que c'est ça le problème. Il a peut-être tellement assimilé ce qu'il voulait dire qu'il ne le retranscrit, en tout cas pas pour moi, il ne retranscrit pas convenablement. Et je suis resté vraiment terriblement frustré. J'ai vu des choses, évidemment, le débat sur la foi, il est présent, mais de nouveau, je ne le trouve pas creusé, je ne le trouve pas approfondi. Donc, je suis resté vraiment, vraiment sur ma faim et je me suis ennuyé. C'est vrai que je suis sorti de là en disant, mais est-ce que j'ai bien assisté à un film de Martin Scorsese, quoi? Hormis le fait que la qualité de la mise en scène est très bonne, c'était ça. Je suis resté vraiment sur ma faim.
Peut-être une œuvre de foi plutôt qu'une œuvre de cinéma, mais il faudra arrêter notre débat, faire silence pour écouter un choix musical assez surprenant, mais que vous nous proposez, vous, Michael, vous pouvez nous présenter.
Oui, mais j'ai choisi une chanson de Damien Saez, qui est un chanteur, pour le coup, on parlait tout à l'heure de l'extrême droite, très engagé, très à gauche, qui est parfois même un petit peu excessif et dans son vocabulaire et dans son propos, mais qui refuse absolument tout le jeu de la promotion, etc. Et qui a vraiment des chansons qui, effectivement, qui vont parfois un peu loin, mais qui sont, je trouve, très, 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 qui ont beaucoup de sens par rapport à ce que nous, à l'époque que nous vivons. Voilà.
Celle-ci s'appelle
Des petits sous.
Des petits sous.
Tino, dans le cerveau qui disparaît. caresses de jour en jour, dans les petits bois, les petits discours, des petits rois dans les basses-cours, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile aux faces, des petits qui vont grossir les ventres, des petits caissiers dans les carrefours, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits pour payer ton loyer, des petits pour la communauté, taper, taper sur les claviers des pompes funèbres au cours d'école, pour voir comme les petits sont fringués, y'a de la griffe sur les guiboles, des petits insectes sur les fleurs, des petits bugs dans le computer, des petits pour l'eau, des petits pour l'air, des petits pour pourrir l'atmosphère, marcher, marcher, les petits pinsons, les petits rois, les petits cons, des petits pour vendre qui on est, à la crier sur les marchés. Des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile ou face, des petits qui vont grossir les gros, qui rendent les petits toujours plus petits, pour que le petit n'ait d'autre choix, pauvre de lui, que de faire des petits, oui, oui, des petits sous, des petits sous, qui veut des petits sous, des petits sous, des petits sous, on veut des petits sous.
C'était Des Petits Sous, le choix de Michael Degré. Nous passons maintenant à la dernière partie de notre émission Les 400 coups, qui s'intitule Les 5 dernières minutes. Occasion pour nos invités de faire part d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule. Et on commence par Eric Van Kutsem.
Alors Charles, moi je vais inaugurer quelque chose dans votre émission, c'est le coup de gueule en forme de coup de cœur ou le coup de cœur en forme de coup de gueule, quoi.
On vous écoute.
Voilà. Alors en fait, il s'agit du film Cure for Wellness en anglais, Cure for Life en français. Oh, ça c'est déjà un gros succès. Mais non, un coup de cœur d'abord parce que les La première heure, les 40 premières minutes ou la première heure sont formidables.
C'est, je vous interromps, celles qu'on a vendues aux journalistes en pré-projection.
Exactement, par exemple. Mais bon, c'était les mêmes qu'on a vues après. Hein. Mais donc, la première heure est assez formidable, exceptionnelle. On se sent happé vraiment dans le film et dans l'histoire du film, qui est une histoire fantastique, hein, qui a des relents de créatures de Frankenstein et de Frankenstein. Donc ça, c'est formidable. Et donc là, c'est mon coup de cœur, franchement. Et puis alors, j'ai un coup de gueule terrible derrière, c'est que c'est un massacre dans la dernière heure ou dans la fin du film. Et on tombe dans du grand guignol qui n'a plus rien à voir avec le début. Et je dois dire, j'ai eu du mal à me réveiller du film, d'une certaine manière, parce que ça m'a tellement surpris comment on pouvait saboter un film qui démarrait bien et le terminer comme ça. Et je dois dire, j'ai été vraiment déçu. Donc finalement, ça revient à un coup de gueule, d'une certaine manière.
Pour un réalisateur quand même qui a fait de bonnes choses.
Oui, c'est clair, mais peut-être un réalisateur qui est moyen, mais ça c'est pas encore la question. Justement, on se disait vraiment dans la première heure que il y avait quelque chose derrière, que c'était vraiment novateur presque. Et puis voilà, le soufflet retombe.
Et Thierry.
Mais c'est drôle parce que c'est un peu la même chose qu'Eric en fait pour moi. J'allais parler un petit peu de Split. Que beaucoup ont aimé et que moi j'ai pas du tout aimé, le film de Shyamalan. Donc, hein,
donc un coup de gueule en l'occurrence.
Eh ben oui, un coup de gueule, mais un coup de gueule et de cœur aussi, justement, parce que donc c'est cette histoire de type qui est possédé de 23 personnalités et qui enlève 3 adolescentes, et bon, voilà. Et finalement, voilà quoi. C'est-à-dire que ça donne l'occasion à James McAvoy de montrer à quel point c'est un acteur absolument fabuleux. Ma préférence va au petit garçon qui l'habite, hein, je crois qu'il s'appelle Edwige, je ne sais plus, un petit garçon de 9 ans, il le fait merveilleusement bien, mais tout est assez cousu de fil blanc, et une fois que c'est installé, plus rien ne se passe. Et ce qui est d'autant plus énervant, qu'il y a des scènes absolument fabuleuses. Il y a une scène de nuit, génialissime, tournée, qui est splendide visuellement, et voilà, Shyamalan est un bon cinéaste. Maintenant, je pense que je suis en train de me poser la question si un jour il aura un bon scénario. Je crois qu'il a intérêt à se faire aider. Il doit écrire à plusieurs parce qu'il y a toujours un problème au niveau du scénario et je pense que le bât blesse souvent de ce côté-là. Et c'est bien dommage parce que c'est pour ça que c'est un coup de gueule. Je pense que Shyamalan avec un très bon scénariste, ça donnerait un film absolument géantissime, voilà.
Parce qu'au départ, il y a une histoire vraie. Il ne prétend pas s'inspirer d'une histoire vraie, mais il existe un réel cas aux États-Unis quelqu'un qui avait 23 personnalités plus une 24e qui englobe le tout.
Oui.
Sans dévoiler le speech, il y a quand même un clin d'œil qui a surpris à la fin du film avec un autre film de Shyamalan. Vous ne voyez pas?
Oui, avec un cassable.
Avec un cassable, Bruce Willis qui apparaît,
qui ouvre des perspectives et qui fait discuter pas mal les cinéphiles sur les forums.
Oui, tout à fait.
Michael, votre coup de gueule ou coup de cœur?
Moi, j'aurais un coup de cœur et peut-être même un double coup de cœur, comme quoi je ne suis pas aussi biliaire que parfois on veut bien le dire. Le premier, c'est une petite anecdote, en quelque sorte, une ajoute par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le film de Lucas Bellevaux. Juste, je voulais signaler qu'il existe une double bande dessinée qui s'appelle La Présidente et qui, je pense, peut être, on va pas non plus opposer l'un à l'autre, peut-être un excellent complément, en tout cas, au film de Lucas Bellevaux et qui, là, décrypte vraiment le programme du Front National et les mécanismes à l'œuvre. Donc là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Mon coup de cœur, la plus cinéma, mais c'est le film qui vient de sortir il y a peu au cinéma, celui de Nicolas Bedos. Je trouve, moi, vraiment que là, il y a quelque chose de très intéressant qui se produit à travers ce film, cette histoire... Monsieur et Madame Adelman, oui, cette histoire sur plusieurs décennies d'un écrivain qui trouve quelque part sa muse et qui devient célèbre et puis qui connaît une descente aux enfers, etc. Et je trouve qu'il y a presque, dans ce film, quelque chose de l'ordre de la mise en abîme entre lui et Dora Tillier, qui est sa compagne à la ville, et comme si, quelque part, lui aussi, en tant qu'aujourd'hui réalisateur et scénariste, il avait trouvé quelqu'un qui l'inspirait suffisamment pour réaliser un aussi bon film.
Merci à mes trois invités. Donc, il y avait Eric Van Kunsem de Synopsis.be. Merci Eric.
Merci Charles.
Merci Thierry, vous travaillez à Moustique.
Oui,
et merci également à Michael Degré de l'Avenir.
C'était un plaisir.
Au plaisir de vous revoir dans les salles de projection.